Bonjour mes frères et sœurs, quelle joie! Nous sommes de nouveau ensemble devant la parole de Dieu en cherchant la direction du Seigneur, cherchant sa lumière à travers la réflexion dans sa parole, cette parole merveilleuse que le Seigneur nous a laissée. Tout d'abord, prions. Notre Seigneur, notre Dieu d'amour, merci de nous avoir aimés de cette façon merveilleuse, d'avoir baissé tes regards éternels, tout saint, majestueux envers nous, des pécheurs, sales, idolâtres de nous-mêmes, éloignés de toi par notre propre volonté. Et voilà que maintenant nous sommes tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus pour leur salut. Merci Seigneur, merci de la sécurité de ce salut par le sang puissant et pur et saint de notre Seigneur Jésus. Et maintenant, devant ta parole, nous voulons apprendre. Nous avons besoin d'être nourris par ta parole, Seigneur. Alors parle, parle à nos cœurs. Tu nous connais, tu connais nos besoins, Seigneur. Approche-nous de toi, Seigneur. Ne nous laisse jamais nous éloigner de toi, Seigneur. Et s'il te plaît, rends-nous chaque fois plus semblables à ton Fils, le Seigneur Jésus, comme dit ta parole. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je vous invite. Nous allons considérer ensemble. Père, voilà. Pourquoi Père? La parole de Dieu, c'est même le Seigneur Jésus, lui personnellement, nous apprend à appeler Dieu de Père. Lisons ensemble Matthieu 6, 9, de 9 à 13, qui dit: Voici donc comme vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà, nous aurons quelques réflexions dans cette façon que le Seigneur Jésus lui-même nous a appris à prier, à nous diriger à notre Dieu avec de la révérence. Voilà, déjà, nous avons lu le passage en Matthieu, et parlons un petit peu de ce livre pour que nous sachions où nous nous trouvons dans la parole de Dieu. Matthieu a écrit, a adressé sa lettre, disons comme ça, aux croyants juifs. Et c'est pour ça que, par exemple, bien souvent, on trouve les expressions comme il est écrit, selon les Écritures, comme le prophète l'a dit, parce qu'il parle des croyants juifs que connaissent bien l'Ancien Testament. Et c'est pour ça qu'il fait référence, une fois après l'autre, à ce qui était déjà écrit. En Matthieu, on va trouver l'expression l'évangile du royaume, aussi trouvée dans la tribulation. Mais dans la tribulation, oui, les versets de la parole de Dieu qui parlent du moment de la tribulation, les 7 ans, ils parlent que dans ce moment-là, l'évangile du royaume sera prêché. Et voilà qu'en Matthieu, on entend ça, l'évangile du royaume. Pour parler, voilà, le royaume de Dieu, il est là, le royaume de Dieu est près de vous. Il parle de ce royaume pour parler du royaume qu'ils ont attendu pour toujours. Quand Dieu même, soit le Messie, le Seigneur Jésus, il viendra régner sur terre. Et s'il dit le royaume de Dieu est parmi vous, dans un moment donné, c'est parce que lui, le roi, est parmi eux. Et s'il dit plusieurs fois, comme il a écrit, selon les Écritures, comment le prophète l'a dit, c'est pour montrer chaque fois comment clairement le Seigneur Jésus est le Messie duquel les prophéties avaient parlé. Et les situations où se trouvent étaient déjà prévues par les Écritures. Voilà. Le chapitre 12, très spécialement, c'est où nous trouvons le péché impardonnable, que c'est le péché de dire non au salut offert par Dieu. Toujours, n'importe qui, pendant qu'il dit non, non au salut que le Seigneur Jésus offre, voilà, ce péché, il n'y a pas comment être pardonné, parce que c'est exactement l'action et l'attitude de dire « Oui, Seigneur, je crois au Seigneur Jésus pour le pardon de mes péchés », c'est qui nous ouvre la porte du pardon et du salut. Et alors, qu'on insiste de dire « Non, je refuse Jésus, je ne crois pas en Jésus », il n'y a pas comment pardonner ce péché. C'est exactement maintenir la porte fermée, la porte qui donne le salut et le pardon du péché. Et c'est à ce moment-là que Israël, comme un ensemble, pas tout le monde, parce qu'il y a ceux qui ont crié, il dit non à Jésus. Et à ce moment aussi, il y a le régler de l'attention du Seigneur pour préparer les disciples. Voilà. À la suite, je vous invite à faire une suite, une séquence de tout ce qui est traité par Matthieu dès le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6 où nous arrivons à la prière que nous avons lue. Alors Matthieu commence dans le chapitre 1 par la généalogie et déjà il fait référence à des choses très importantes. Jésus, le fils d'Abraham, pour dire, il est descendante d'un juif, et le fils de David, voilà, il est descendante du roi, pour dire, voilà, le roi du juif. Et il va faire après la division de 14 en 14, parce qu'immédiatement pour le juif, ils savent que 14, c'est la somme des lettres du nom David, en hébreu. Et c'est pour ça qu'il fait cette division, pour dire, voilà, le roi, le descendant éternel de David. Après, il parle de la postérité de la femme, ce que c'est éclatant, choquant pour le juif, parce que c'est toujours le descendant, la postérité d'un homme. Mais voilà, comme exception, la postérité de la femme, parce que le Seigneur Jésus, il n'a pas hérité la nature du péché de l'homme, de l'être humain qui vient par le Père, mais tout à fait, il était divin. Et c'est pour ça la postérité de la femme, comme prévu par Genèse 3 et 15. Chapitre 2 de Matthieu, la naissance du Seigneur et la persécution d'Hérode. Chapitre 3, Jean-Baptiste, nous voyons Jean-Baptiste, nous voyons l'évangile du royaume. Chapitre 4, l'adversaire, parce que c'est ça que veut dire Satan. L'adversaire tente le Seigneur dans le désert. Le Seigneur prêche l'évangile du royaume, guérit et appelle les premiers apôtres. Chapitre 5, nous voyons les béatitudes liées au royaume, le témoignage personnel, des enseignements à propos de la loi, de la colère, de l'adultère, du divorce, le serment, la vengeance, l'amour pour les ennemis. Et au chapitre 6, nous arrivons au moment où il parle de l'aumône et finalement, pour arriver où nous sommes, la prière qu'il nous a appris. Et voilà, il commence pour dire la façon de prier, de nous adresser à Dieu, de dire Père. Pourquoi Père au lieu de Dieu dans ce moment-là? Pourquoi Père au lieu de Seigneur, etc.? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne ce mot? Non seulement, alors nous nous adressons à un être au-dessus de nous, tout majestueux, tout saint, tout puissant, oui, il est tout ça, mais aussi un être relationnel. Annette, s'il est un père, c'est parce qu'il y a des enfants, il y a des filles, des fils et des filles. Voilà, ça montre une relation. Et ça nous donne une identité. Si nous sommes ses enfants, ça veut dire que nous avons hérité quelque part de sa nature, de ses caractéristiques, etc. Et voilà, c'est déjà Romains 8 qui dit que Dieu nous a sauvés pour nous rendre chaque fois plus d'après l'image de son Fils. Alors, appeler Dieu de Père nous parle d'une relation très intime, nous parle d'une identité, d'une orientation qu'un père donne à son enfant, d'un modèle, nous parle de sécurité, d'honneur, de dignité. Appeler Dieu de Père nous donne un nom. Père. Voilà. Nous allons lire maintenant Jérémie 32 et 38. Et voilà, je vous rappelle que quelle bénédiction nous avons la parole de Dieu traduite en français pour notre langue. Souvenons-nous qu'elle n'a pas été écrite en français, sinon en hébreu, araméen et grec. Et la majorité de nous, il me semble, ne connaissons pas ces langues. Alors, merci Seigneur pour la traduction de la parole de Dieu et bénis ceux qui n'ont pas encore ta parole traduite et appelle des enfants, de tes enfants qui viennent faire ça, Seigneur. Merci. Voilà. Jérémie 32 et 38 dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Quelle importance de ce passage. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Identité. Dieu veut être proche. Dieu veut que nous l'appartenions. Je veux que nous le voulions à notre côté. C'est lui qui dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Merci Seigneur. Encore. En parlant de cette identité donnée par le mot Père. Romains 8, 29, écrit originalement en grec, nous dit prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Quel honneur, quel privilège, le plan éternel de Dieu de nous racheter, non seulement pour nous racheter, c'est fini, mais pour une œuvre digne, honorable, nous rendre semblables à l'image de son Fils. C'est vraiment plus que restaurer la dignité de l'être humain, de l'image et ressemblance de Dieu. Merci Seigneur. Et encore à propos de l'identité, Jean 8, 44, qui dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais attendons, le diable n'a pas d'enfant, il n'a jamais généré des enfants. Pourquoi ce mot-là? Parce que déjà la parole de Dieu utilise l'expression, la valeur, la relation père-enfant pour dire, pour parler de quelqu'un qui suit les pas de l'autre, qui suit les directions données pour l'autre, par l'autre. C'est pour ça qu'il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et nous avons pour père, grâce à Dieu, le Dieu tout majestueux, le Dieu saint, le Dieu d'amour. Alors, suivons ses pas. Voulions accomplir les désirs de notre père et pas de Satan, ceux de Satan. Ok, et après, il nous donne aussi le mot notre Père. Oui, il est le Père, et nous avons vu comment c'est précieux, cette valeur est précieuse, mais pas seulement Père, mais notre Père. Jean 1, 12 nous parle de cette appropriation. Jean 1, 12, un morceau du verset dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné. Elle, parce qu'il parle du Seigneur Jésus comme la parole de Dieu qui a devenu un être humain et habité entre nous. Alors, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, Dieu leur a donné à chacun de ces personnes. Voilà, c'est personnel, ça parle de moi, ça parle de toi. Soyons reconnaissants, cherchons la volonté de Dieu dans notre vie. Notre Père qui est aux cieux, ça parle d'une position, la position du Père qui nous donne aussi une position. Ce Père, c'est un Père céleste, c'est un Père qui est aux cieux. Voyons, Jean 14, 3, déjà nous dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il est allé préparer lieu de la place pour nous, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Dieu nous veut tout près de lui. Et il est allé nous préparer un lieu aux cieux. Genèse 1, 26 dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Dieu nous donne une position de privilège. Vivons d'après cette position d'enfant de Dieu, des enfants de Dieu. « Que ton nom soit sanctifié. » Nous apprenons de la parole de Dieu que « sanctifié » veut dire « séparé ». Et pour nous, les enfants de Dieu, veut dire nous séparer d'une vie de péché, d'une vie qui n'est pas agréable à Dieu, qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, séparer pour Dieu. Mais ici, il dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, la personne de Dieu pour nous, ne doit pas être comme n'importe quel autre de nos relations. Non, qu'elle soit séparée, qu'elle soit quelque chose de précieuse, de spécial. Ça parle de l'honneur de Dieu que nous devons donner à chaque instant. Déjà, Exode 20 et 12, et répété en Matthieu 19 et 19, dit « Honore ton père et ta mère ». Et Dieu, à travers ce symbole de la famille qui, quelque part, réfléchit la relation entre nous et Dieu. Déjà, il dit d'honorer nos parents et donne même une promesse pour ça. Et maintenant, il dit d'honorer, que le nom de Dieu soit honoré. Nous l'honorons à travers nos prières, nos louanges et nos actions, notre attitude. Qui nous sommes devant la société qui nous sommes dans la vie de chaque jour. Honneur à Dieu. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, nous parle, parmi plusieurs d'autres choses, nous parle de sécurité. Ah, qu'est-ce que, quand le règne de Dieu finalement sera venu ici sur terre, que le Seigneur Jésus sera assis sur le trône de David en Jérusalem. Qu'est-ce que ça sera merveilleux. Déjà, il y a des passages de la parole de Dieu qui nous donnent des idées. Voilà, lisons Ésaïe 65, les versets 16, 20 et 21. « Celui qui voudra être béni dans le pays » voudra l'être par le Dieu de la vérité. Et celui que jurera dans le pays, jurera par le Dieu de la vérité. Voilà, Dieu sera manifesté, il sera là, au trône de David à Jérusalem, et on saura que si on veut de la bénédiction, c'est là, ça vient de lui, ça ne vient pas de la sécurité de mes diplômes, de mon argent à la banque, etc. Mais maintenant, ça sera clair. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Il nous apprend que dans ce royaume de 1000 ans, l'être humain reviendra à vivre une vie longue de centaines d'années. Et il n'y aura personne qui sera coupé de sa vie ici, sauf si condamné à cause de son péché. C'est pour ça qu'il dit, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ça parle de la sécurité. La maison que je bâtis, je vais habiter. Personne ne la possédera, ne la dérobera. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Encore Apocalypse 20, verset 4, nous dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Et en ce moment-là, il parle du moment de 7 ans, de la souffrance qu'il y aura ici sur la terre avant le royaume de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Encore, le psaume 23 nous parle de cette position, de cette sécurité que être un enfant de Dieu nous donne. Cantique de David, nous dit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins de l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel privilège, quel sens de sécurité d'être un enfant de Dieu, vivant à l'auteur de cette réalité. Encore Luc 17, 21 dit, ah pardon, je profite pour vous encourager, hein, s'il y a ceux parmi nous qui n'ont pas encore mémorisé le psaume 23, faisons-le pendant la semaine. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus nous a rassuré que le Saint-Esprit nous rappellerait de ce que Jésus nous a appris. Mais il faut nous laisser qu'il nous apprenne. Alors, mémorisons des versets de la parole de Dieu, étudions la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit ait de quoi nous rappeler dans le moment de besoin. Apprenons par cœur le psaume 23. Ok, encore, Luc 17, 21 dit, « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Oui, bien sûr, il a dit ça à ce moment parce que le roi était parmi eux. C'est pour ça que le royaume de Dieu était au milieu d'eux. Et à ce moment-là, dans l'avenir, voilà, le royaume de Dieu sera établi. À la continuation de la réflexion sur la prière que le Seigneur nous a appris, que ta volonté soit faite. Ça me parle de autorité. Oui, si je dis à Dieu que ta volonté soit faite, je reconnais l'autorité de Dieu et je me soumis à son autorité. Ça c'est de l'aventure dans notre vie, hein? C'est du défi déjà, parce que nous sommes tentés chaque jour à dire « Oui Seigneur, mais ici, dans ce domaine ici, tu ne touches pas, d'accord ?» En nous oubliant qu'il nous a rachetés. Quand nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, la traduction, la valeur de ça, c'est nous sommes les esclaves de Dieu. Autorité, que ta volonté soit faite. Oui, même pour faire la volonté de Dieu, nous avons besoin de l'aide de Dieu de Saint-Esprit pour nous aider à vivre la bonne vie, la bonne relation que Dieu a rachetée à haut prix sur la croix pour nous. Voyons ce que 1 Thessaloniciens 4, 3 dit à ce propos. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Tout d'abord, ta sanctification. Que tu sois séparé. Maintenant, j'appartiens à Dieu. Je veux faire ça. Je vais prendre cette décision. Je vais faire n'importe quoi. Si c'est la volonté de Dieu. Oui, la sanctification. Ma vie appartient à Dieu maintenant. Encore 1 Timothée 2, 4 dit, « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ?» Oui, pourquoi connaître la vérité? Pour vivre d'après cette vérité. Encore, dans la prière que le Seigneur nous a appris, « Sur la terre comme au ciel. » S'il nous avait dit que ta volonté soit faite, et ça nous parle de l'autorité que nous permettons de Dieu avoir sur nous, maintenant il nous donne un modèle de cette autorité. Que ta volonté soit accomplie dans ma vie, de quelle façon? Sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que l'autorité de Dieu existe dans le ciel? Elle existe d'une façon absolue. Absolue. Si un ange déjà désobéit le Seigneur, c'est fini pour lui. Nous savons d'après la parole de Dieu. C'est à nous le grand privilège de confesser nos péchés et d'avoir le pardon. Mais au ciel, l'autorité de Dieu, c'est au 100%. Et la prière que le Seigneur Jésus nous apprend, c'est « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'il soit de cette façon dans ma vie. » Jean 14 et 12 nous dit déjà « En vérité, ce sont les mots du Seigneur Jésus, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Si déjà tout ce que le Seigneur Jésus nous dit, c'est la vérité, quand il dit « en vérité », c'est la traduction que nous avons en français pour le mot grec, qui en fait c'est un mot emprunté de l'hébreu, c'est le mot « amen » que nous connaissons, et que vient d'une racine du verbe « faire confiance ». C'est le verbe « aman ». Et quand il dit « amen », c'est pour dire « vous pouvez confier aux paroles que je suis à vous donner maintenant. » Quand il dit « en vérité », c'est comme par dire « je vais vous dire des mots forts maintenant, choquants peut-être, mais faites confiance. » Et il dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Ah oui, Seigneur? Oui. Et il en fera de plus grandes, de plus grandes. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire de plus grande de tout ce que le Seigneur Jésus a fait déjà? Il donne l'explication à la fin du verset. Parce que je m'en vais au Père. Le Seigneur Jésus, dans toute sa puissance, il n'a à son temps et à la géographie du moment, il n'a que achevé son entourage. Mais à travers nous, Dieu fait plus de ce qu'il a fait. Voilà, l'évangile est arrivé en Belgique. Alors c'est pour ça qu'il dit, et il en fera de plus grande, parce que je m'en vais au Père. Ah, mais c'est ça, que c'est faire le plus grand encore? C'est arriver avec l'évangile dans des endroits où le Seigneur Jésus n'est pas arrivé. Voilà le problème. Nous ne valorisons pas cette pierre précieuse qui c'est l'évangile, qui c'est le salut donné par Dieu. Donnons de la valeur à ce qui a de la valeur d'après la parole de Dieu. Dans la prière encore, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça me parle de dépendance et de confiance. Je dépends de Dieu et je confie qu'il va me donner. Et après, si nous avons fait confiance à Dieu pour le plus haut, le plus cher qu'il y a à notre salut, pourquoi nous méfier de le restant? Du restant. 1 Pierre 5, 7 dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le psaume 37, verset 25, 10, dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Ça pour dire, par dire, Dieu ne nous abandonne pas. Parfois, il y a des situations pressées que Dieu nous permette de passer pour nous changer, pour nous apprendre des leçons importantes en tant que des enfants de Dieu, et d'autres fois pour que son nom soit glorifié. Mais sinon, quand il a son soin pour nous, il n'y a pas de doute. Encore dans la prière que le Seigneur nous a appris, pardonne-nous nos offenses, oui, mais de quelle façon? Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça parle de grâce, de la grâce de Dieu envers nous, de la grâce de nous envers les autres, et aussi ça parle de la discipline. C'est moi-même à travers mes prières, et c'est la prière que le Seigneur nous a appris, que conditionne la grâce de Dieu envers moi. La parole de Dieu dit, comment est-ce que je dis que j'aime en Dieu que je ne vois pas, si je n'aime pas mon frère et ma sœur que je vois chaque jour? Alors, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés, parle à la fois de la grâce et de la discipline dans ma vie. Lamentations 3, 22, 23 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et Matthieu 7, 12 dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà, c'est la combinaison de la grâce avec de la discipline. La discipline qui m'aide à vivre et à jouir de la grâce de Dieu chaque jour. De nouveau à la prière que le Seigneur nous a appris, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ouh là là, ça me parle du soin de Dieu avec amour. C'est intéressant qu'il nous dit, ne nous induis pas en tentation. Il vaut bien remarquer que le mot « tentation » et le mot « épreuve » dans la parole de Dieu sont le même mot à l'origine. C'est nous, dans la traduction, pas moi, pas toi, mais quelqu'un qui l'a fait, qui avons choisi, bon, quand ce test, cet examen vient de Dieu, c'est pour nous bénir, et alors, c'est une preuve. Quand ce test, cet examen vient de Satan, l'adversaire, c'est pour nous faire tomber et on va décider de traduire pour tentation. Mais de toute façon, c'est un test. C'est pour ça qu'ici, ne nous induit pas en tentation, en tout cas, soit qu'il nous permette d'être tenté par Satan, soit qu'il nous permette d'être prouvé par lui-même. Et le Seigneur Jésus nous apprend à prier, à demander, et alors il va décider, ne nous induis pas en des épreuves, en des tentations, en des tests, mais délivre-nous du malin, de Satan. Voyons déjà Romains 7, 19 dit, la loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Tout ce que vient de Dieu, c'est pour nous conduire dans la lumière. Et Jacques 1, 13 et 14 dit « Que personne, lorsqu'il est tenté, qu'il est éprouvé, ne dise « C'est Dieu que me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Un instant, Dieu ne peut être tenté par le mal, Mais Satan a tenté le Seigneur Jésus dans le désert. Et même Satan a tenté, disons, le Père à propos de Job. Comment est-ce que la Bible nous dit, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne s'il a prouvé Abraham, s'il a prouvé d'autres serviteurs, et moi, et toi, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, le verset 14 nous répond, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Pourquoi est-ce que Satan arrive à nous tenter et parfois nous péchons? Parce qu'il y a de quoi se servir en nous, notre vieille nature du péché. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi avec le Seigneur Jésus? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas être tenté? Parce qu'il n'y a pas de la nature pécheresse en lui-même. OK? Et pourquoi est-ce que Dieu lui-même, il ne teste, il ne prouve personne? Parce que quand il le fait, ce qui nous met à l'épreuve vraiment, c'est ce qu'il y a dans nous. S'il n'y avait rien de mauvais en nous, il n'y aurait pas de preuve. C'est pour ça. Et alors, pour ça aussi, sanctifions-nous. Laissons-nous être sanctifiés par Dieu, de façon à être chaque fois plus fort, plus saint, et de jouir cette relation avec le Père. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, ça veut dire pour toute l'éternité, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Qu'est-ce que ça me parle de la reconnaissance? La reconnaissance. Quel honneur, quel privilège, le Dieu de tout univers. Je peux le regarder, je peux m'adresser à lui et dire, Père, il veut que je le fasse. Il veut cette relation précieuse. Alors, profitons de tout ça qui a été acheté pour nous, payé au plus haut prix sur la croix, par la souffrance et le sang du Seigneur Jésus. Que notre Dieu soit honoré. Et grâce à Dieu, pour ce moment ensemble, dans la parole de Dieu. Prions une fois encore. Notre Dieu d'amour, notre Père éternel, quelle joie, quelle merveille, quel privilège, quel honneur. Nous sommes appelés tes serviteurs, nous sommes appelés tes amis, nous sommes appelés tes enfants. Tu nous as rachetés, tu nous as donné un nom digne, ton nom le plus digne qu'il y a. Merci Seigneur. Ah Seigneur, aide-nous, parce que ce n'est que par ta grâce et par l'aide du Saint-Esprit, par la puissance de ta parole, la lumière qui est là, que nous pouvons vivre à l'auteur de ce que tu nous proposes. Merci Seigneur, merci parce que déjà c'est toi qui le veux tout d'abord. Aide-nous, ne nous laisse pas nous éloigner de toi. À toi la gloire pour toute l'éternité. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.